Radio Vatican, Français Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Celui qui n'accueille pas le royaume des dieux à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Tels ont été les mots du pape lors de la première audience générale de l'année depuis la salle Paul VI du Vatican. Ouverture de la 32e assemblée de la conférence épiscopale du Gabon mardi 7 janvier. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église en Afrique qui nous conduira aussi au Togo. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira entre autres au Tchad et au Rwanda avant de suivre le témoignage d'espérance de Jean-Pierre Ivan Sagné, un jeune Camerounais d'une trentaine d'années qui se trouvait à la tête de la révolte contre les conditions de surexploitation dans les campagnes italiennes. Et nous conclurons cette édition avec Mgr Nestor Nongo, président de la Conférence épiscopale de la République centrafricaine, qui nous parlera du jubilé de 130 ans de l'évangélisation de ce pays, clôturé dimanche 5 janvier. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Fabrice Baguendekere.
Celui qui n'accueille pas le royaume des dieux à la manière d'un enfant n'y entrera pas. C'est sur le regard des enfants exploités, marginalisés ou abusés que le pape a souhaité attirer l'attention dans sa première audience générale et catéchèse de l'année. Les enfants sont un don des dieux et pourtant ils sont trop nombreux à souffrir du fléau de la guerre, du travail ou des abus, a déploré l'évêque de Rome, alertant vigoureusement sur leur exploitation. Plus de détails avec Delphine Allaire.
Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. C'est sur le regard des enfants exploités, marginalisés ou abusés que le pape souhaite attirer l'attention à une époque particulière. Le fléau du travail infantile se poursuit alors que nous regardons vers d'autres planètes ou des mondes virtuels.
Il sait ce qui génère l'intelligence artificielle non a fatto ancora i conti con la piaga dell'infanzia umiliata, sfruttata e ferita a morte.
Le siècle qui génère l'intelligence artificielle n'a pas encore pris la mesure du fléau de l'enfance humiliée, exploitée, mortellement blessée, affirme l'évêque de Rome à 3 semaines d'un premier sommet qu'il a souhaité convoquer au Vatican sur les droits des enfants. François pense aux plus petits qui meurent de faim et de misère ou qui sont déchiquetés par les bombes, à l'image déjà de la violence d'Hérode à l'encontre des innocents de Bethléem. Le pape s'attriste aussi des enfants exploités par une économie qui ne respecte pas la vie et ce faisant brûle notre plus grande réserve d'espérance. Au lieu de rêver et d'accroître leur talent, ils seraient, selon l'UNICEF, 160 millions à être contraints de par le monde au labeur. Quiconque fait du mal à un enfant devra lui rendre des comptes, a conclu le pape.
Depuis le 24 décembre dernier, soit une quinzaine de jours, au moins 545 532 personnes ont franchi le seuil de la porte sainte de Saint-Pierre de Rome, a annoncé mardi 7 janvier le dicastère pour l'évangélisation en charge de l'organisation du jubilé 2025. Ouverte par le pape François la nuit de Noël, la porte sainte de la deuxième basilique majeure est franchie chaque jour par des milliers de pèlerins. Pour ce faire, l'organisation du jubilé a prévu un pèlerinage et une démarche spirituelle pour remonter la via de la Conciliazione et arriver devant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. De la bonne gestion des biens à l'autonomie financière de notre église locale, telle est la thématique de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon, ouverte mardi 7 janvier. L'abbé Michel-Ange Bengon Outanga, secrétaire général de la conférence épiscopale, nous explique le thème et les objectifs de ces assises.
Cette thématique nous donne le souvenir de l'homélie historique et mémorable du pape Paul VI à Kampala, c'était le 31 juillet 1969, avec la célèbre phrase que nous connaissons, « Africains, soyez vos propres missionnaires ». C'était déjà là un appel fort de Rome à confier à l'Église en Afrique les rênes de sa propre destinée pour qu'elle commence à s'assumer en toute autonomie. Cet appel du Saint-Père, dans le souci effectivement de porter notre Église à maturité, nous oblige aujourd'hui, comme Église du Gabon, à affronter courageusement la question de l'autonomie financière, car l'effectivité de cette autonomie financière apparaît salutaire et vitale pour l'enracinement même de l'Évangile. La recherche de l'autonomie financière, qui ne va pas sans les notions de bonne gestion, de transparence, de responsabilité, d'honnêteté, n'est pas une question secondaire dans l'Église, mais une préoccupation sérieuse. Alors, pour les présentes assises, il sera question pour nos pères évêques, avec tous les collaborateurs, de trouver des stratégies capables d'initier une véritable pastorale développement dans nos diocèses en vue d'une auto-prise en charge. Il sera question pour eux de créer de nouvelles manières dans l'agir pastoral par des orientations pastorales précises conformément aux normes canoniques.
Rendons-nous à présent au Togo où prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs du diocèse d'Anéo se sont retrouvés samedi 4 janvier en la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul autour de l'évêque d'Anéo, Mgr Isaac Jacques Gaglo, pour des échanges de vœux au seuil de cette nouvelle année. Les précisions de Gustave Wamne.
À l'issue de la célébration eucharistique animée par la chorale des prêtres, religieux et religieuses, le vicaire épiscopal, le très révérend père Séverin Zinsou pour le clergé diocésain, le frère François Sido pour l'Union des consacrés et Monsieur Emmanuel Agolou pour le conseil diocésain des laïcs ont tour à tour présenté les vœux à l'évêque diocésain. Le porte-parole des consacrés a rassuré l'évêque du soutien de tous par la prière.
Qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge ordinaire et celle de l'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé. Qu'il vous donne surtout des collaborateurs joyeux, intègres, soucieux du bien commun, afin que vos efforts soient soutenus.
Monseigneur Gaglo, à son tour, a adressé au peuple de Dieu des conseils empruntés à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains.
Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière.
Gustave Wam, Dapon pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'influence française en Afrique ne se résume pas aux bases militaires qu'elle est en train de rétrocéder aux pays où elles sont situées, a plaidé mercredi le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, sur les médias, indiquant que le vrai agenda est à son avis économique. Lundi, en effet, Emmanuel Macron a déclaré devant les ambassadeurs français que la France avait eu raison d'intervenir militairement au Sahel contre le terrorisme depuis 2013 et qu'aucun d'entre eux ne gérerait un pays souverain sans cette intervention. Pour sa part, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a notamment fait part de son indignation face à des propos qui frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Paris a quitté à ce stade une de ses 3 emprises militaires au Tchad, les 2 autres devant suivre dans les prochaines semaines. De nombreuses parties d'une ville clé dans l'est de la République démocratique du Congo prises le week-end dernier par la rébellion du M23 étaient entre les mains des génocidaires des FDLR, a déclaré Kigali mardi. Les FDLR, groupe armé formé par d'anciens hauts responsables du génocide rwandais de 1994, depuis réfugiés en RDC, constituent aux yeux de Kigali une menace permanente. Les M23, groupe armé soutenu par le Rwanda qui ne cesse de gagner du terrain, a pris samedi le contrôle des villes clés de Masisi à environ 80 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, à la suite des combats qui ont, selon l'ONU, déplacé plus de 100 000 personnes. Le redoutable commandant paramilitaire soudanais Mohamed Hamdan Daglo, ancien chef de milice dans le Darfour, devenu commandant en second du pays, a été sanctionné mardi avec ses hommes pour génocide par les États-Unis. Nous sanctionnons le chef des forces de soutien rapide pour son rôle dans les atrocités systématiques contre le peuple soudanais. Emeti et les membres de sa famille immédiate ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, a annoncé le département de l'État. Un magistrat enlevé fin décembre dans la région anglophone du Nord-Ouest au Cameroun, en proie à un conflit séparatiste, a été libéré samedi, a indiqué mardi une organisation de défense des droits humains. Chang Amongwa, le deuxième avocat général de la cour d'appel de Bamenda, enlevé le 29 décembre 2024, a été libéré, a annoncé sur Facebook Amadou Tarté, le directeur de Conscience africaine, organisation camerounaise de promotion des droits démocratiques. Le caporalato, l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère dans les secteurs agricoles en Italie, une forme d'esclavage moderne que connaissent plusieurs milliers de migrants. En 2011, à Nardo, dans les Pouilles, des migrants entassés dans des ghettos se révoltent contre les conditions de surexploitation et déclenchent une grève qui durera 2 mois et induira les autorités à voter une loi contre ce phénomène. Jean-Pierre Ivan Sagné, un jeune Camerounais d'une trentaine d'années, arrivé en Italie pour les études en ingénierie, qui se trouvait à la tête de cette révolte, a été décoré en 2017 par le président italien Sergio Mattarella. Il a récemment livré son témoignage d'histoire d'espérance aux médias du Vatican. On l'écoute.
Travailler de cette manière 16 heures de temps, je gagnais moins de 50 centimes par heure et j'étais malade. Cela suscitait en moi une certaine rage. J'étais très, très remonté contre ces caporales, ces personnes qui nous exploitaient. Et à un certain moment, donc, j'ai dit non, je n'en peux plus, ce n'est pas juste de nous traiter comme ça, nous ne sommes pas des animaux. Et j'ai tenu tête à mon caporal, il m'a regardé, il m'a dit « Écoute, tu n'es pas venu ici pour faire du désordre. Je travaille ici depuis 30 ans et personne ne s'est comporté comme toi. Je vais te faire du mal. » J'ai dit, écoute, je ne veux pas de problème, je veux juste que mes droits soient respectés. Nous voulons un contrat de travail, nous voulons tous nos droits, des horaires, des scènes de travail, voilà. Donc, le caporal n'a pas accepté ces revendications et comme j'étais, disons, parmi les immigrés, la personne un peu qui avait étudié, j'ai donc mis à disposition de mes collègues, les immigrés, cette culture. Voilà, j'ai compris que le système monétaire, ce n'était pas un système fort. J'ai mes valeurs. Nous avons nos valeurs en Afrique. J'ai dit, ce n'est pas juste. Il m'est venu l'idée d'organiser une grève. J'ai réuni tous ces immigrés qui étaient avec moi dans ce lieu, dans ce ghetto. On était 1200 personnes, je les ai réunis tous. Nous avons fait des initiatives très, très dures, difficiles. Ils ont pris le courage, finalement, de dénoncer. On a allé au tribunal. La magistrature a ouvert une enquête. C'était la première enquête contre l'exploitation des travailleurs immigrés en Italie. Je me suis donc retrouvé comme leader de cette grève. Ma vie a changé. J'ai reçu beaucoup de menaces de mort de ma vie. Pour moi, j'avais vécu une injustice que je ne pouvais pas laisser, surtout pour mes amis qui n'avaient pas de défense, qui ne savaient pas bien parler la langue italienne. Donc j'ai dit, je vais faire ça pour eux. Et comme j'ai des valeurs chrétiennes très, très fortes à moi, alors j'ai dit non, ici, il faut que je fasse ça au moins pour le bien de mes collègues, pour qu'ils ne soient plus exploités. Donc en 2011, il commence mon parcours. Je faisais tout autre chose à l'université, ingénierie, mais bon, j'ai décidé de travailler pour les droits, défendre les droits humains des travailleurs immigrés en Italie.
Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Quels défis vous comptez relever? Et quels résultats cherchez-vous à atteindre?
Ce n'est pas facile en Italie, surtout quand on est immigré. Et j'ai travaillé dans le syndicat italien. Après, j'ai créé une société. Mais entre-temps, grâce à nous, il y a quelque chose d'important qui s'est avéré. Le gouvernement italien a approuvé la première loi contre le caporalato, contre l'esclavage moderne dans le travail. Donc, c'était une victoire de tous les travailleurs. Cette loi a récompensé un peu l'effort de notre travail. Mais on savait que ce n'est pas seulement avec cette loi qu'on va penser que tout le problème, tous les maux vont disparaître.
Jean-Pierre Ivan Sagné, ingénieur et responsable du réseau NOCAP. L'église en Centrafrique a clôturé dimanche 5 janvier les festivités marquant les 130 ans de l'évangélisation du pays. La messe solennelle célébrée à la paroisse Saint-Paul de Bangui a été présidée par Mgr Nestor Désiré Nongo Aziagbia, président de la conférence épiscopale centrafricaine. Dans son homélie, Mgr Nongo a mis un accent particulier sur les défis à relever par toutes les composantes de l'église après ce 130e anniversaire. Le président de la conférence épiscopale, pour nous situer sur les thème de ce jubilé, Centrafrique, hier, aujourd'hui et demain, je t'envoie.
L'annonce de l'évangile a été reçue hier. Cette annonce a produit des effets aujourd'hui et la perspective demain, quel type d'église, quel type de chrétien nous voudrons être. Et dans la perspective de l'année jubilaire de 2025 que nous avons commencé localement ici le 29 décembre, nous nous sommes mis en marche dans l'espérance dans le Christ pour être un signe vivant de la présence de Dieu parmi les hommes et au sein de notre société, comme le sel de la terre ou bien la lumière du monde.
Quel est le message à retenir à la clôture de ce jubilé de l'évangélisation de votre pays?
L'essentiel du message, c'est fondamentalement un message d'espérance. Nous avons porté un regard dans le rétroviseur pour savoir d'où nous venons, de qui nous avons reçu cette foi. Nous avons évalué l'impact de cette foi reçue, l'impact de cette foi vécue dans le quotidien du fidèle chrétien catholique centrafricain, dans le vécu de l'Église ici en Centrafrique et la perspective d'avenir. Quel signe d'espérance nous voulons être pour notre Église? Quel signe d'espérance nous voulons être pour notre pays? Nous ne voulons pas nous réjouir ou bien nous contenter des réalisations qui ont été déjà faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la promotion humaine, dans le domaine de la promotion de la dignité humaine. Nous nous sommes énormément investis dans ces domaines-là. Mais comme les délégués venus des différents diocèses du pays l'ont relevé, il reste des défis.
Quels sont les défis qui attendent toute l'Église en Centrafrique?
Les défis dans le témoignage concret de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des réalisations qui ont été déjà faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la promotion humaine du développement intégral de l'homme, dans le domaine, je dirais, de la protection des personnes vulnérables. Au-delà de ces réalisations, nous sommes conscients, comme les délégués venus des différents diocèses du pays l'ont relevé, nous avons des défis énormes en ce qui concerne la vocation, en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne l'engagement chrétien dans les différents aspects de notre vie. Donc, ce sont ces défis-là. Il y a besoin de continuer à sensibiliser nos chrétiens. La foi ne va pas se vivre uniquement à la sacristie ou bien à l'église où nous allons nous contenter simplement des chants et d'une expression folklorique.
Vous souhaitez un peu plus d'engagement?
Notre foi doit nous engager dans les réalités concrètes de la vie de notre peuple. Là où il y a des compromissions, comment être signe et présence de Dieu, signe et présence de l'église dans les différentes réalité de notre vie. Comment porter le message de Dieu, le message de justice, le message de vérité dans ces réalités concrètes de notre existence.
Aussi un engagement à la réconciliation.
Nous sommes dans une société en crise. Comment aller au-delà de nos blessures pour continuer à tisser des liens de fraternité et d'humanité? Nous entrons dans la dynamique du processus synodal. En même temps, nous devons être des acteurs de développement de notre pays. Donc, le chrétien centrafricain se reposant sur sa foi doit être en première ligne dans l'engagement socio-politique, dans l'engagement socio-économique, dans la reconstruction de son pays.
Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia, Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia, président de la Conférence épiscopale centrafricaine, interrogé par Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguende-Kéré qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.